Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Philippe Faure, qui représente aussi son entreprise Fildar & Co, protection 3D. On le reçoit suite à la phobie de Sophie, vidéo à l'appui. Philippe est fan de Maya l'abeille, apiculteur, mais plus que ça aussi. Bonjour Philippe.
Bonjour Delphine.
Comment allez-vous ?
Bah écoutez, tout va bien. Le travail en a de plus en plus. Hein. Les nids frelons, les primaires sont là. Donc on intervient de plus en plus sur les sites des particuliers et on détruit beaucoup de nids primaires pour justement empêcher les nids secondaires et avoir cette propagation de frelons arrivée en octobre qui va se reporter sur l'année suivante, etc. quoi.
Vous êtes apiculteur à l'origine, comment êtes-vous passé de la destruction de nuisibles à l'apiculture en fait ?
En fait, c'est le contraire. Je suis passé de l'apiculture à la destruction de nuisibles. C'est depuis 2013-2014, lorsqu'on avait nos premières ruches, on a vu les premiers frelons asiatiques arriver. Il y en avait déjà, mais beaucoup moins. Mais on a vu qu'il y avait une forte pression sur nos ruches. Et on passait des journées... comme tout le monde, avec la raquette de badminton, et puis les pièges, et puis ceci. On a commencé à faire des plans sur des imprimantes 3D pour essayer de faire des pièges, etc., pour pouvoir réguler ce fléau, quoi. Et du coup, je devais être en retraite. Ça m'a été refusé.
Dommage.
Donc du coup, j'ai dit, puisqu'il me reste encore des années à faire apparemment, on va continuer. Et puis j'ai monté ma société de destruction en passant tous les agréments nécessaires, phytosanitaires, biocides, télépilotes de drones, parce que je vais intervenir bientôt avec un drone pour les nids qui sont perchés très très haut, plus de 20 mètres. Donc voilà comment j'en suis arrivé de l'apiculture en fait à la 3D.
Voilà, en même temps les deux activités sont liées.
Tout à fait, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Donc l'apiculture, c'est quelque chose d'utile. On sauvegarde nos abeilles, on sauvegarde les cultures, on aide à la pollinisation des vergers puisqu'on déplace les ruches et puis on les met là où il faut pour que ça se fasse. Et puis si on mange, y a 60-70% de la nourriture qui est là, en fruits et légumes, qui sont pollinisés par nos amis les insectes.
Et oui. Donc vous faites les frelons, mais vous ne faites pas que ça.
Non, je ne fais pas que le frelon. Là, en ce moment, c'est la pleine période du frelon, donc ça va aller jusque juillet, août, septembre, novembre. Mais on fait aussi la dératisation.
Donc on est en pleine période d'antivirus, c'est ça ?
Là, voilà, donc l'antivirus, à savoir qu'il existe depuis toujours, ça a toujours été là, mais il n'y avait pas de forme qui était transmissible jusqu'à présent à l'homme. Apparemment, c'est l'antivirus des Andes qui serait transmissible à l'homme. Alors comment ? Ça c'est les secrets de la nature qui font un peu comme le Covid, etc. Faire peur aux gens, mais l'antivirus, il y en a partout. Déjà, nous, dans l'Est, on y est depuis quand même pas mal de choses. Il faut savoir que ce sont les surmulots, les mulots, le rat, pas le rat domestique, mais le rat surmulot, donc le rat marron qui peut transmettre l'antivirus.
Donc on serait plus exposé dans l'Est ? C'est ça ?
Non, pas
que dans la moyenne nationale ?
Non, c'est un antivirus qui est... Il y a plusieurs formes d'antivirus, en fait, d'après ce que j'ai compris. Mmh. Et celui que nous avons, là, pour l'instant, j'ai pas eu de cas, j'ai pas eu...
On n'a pas de retour sur la région.
Non, on n'a pas eu de retour sur la région. L'antivirus a été découvert il y a déjà quelques années par chez nous, dans les Ardennes, etc. Mmh. Donc il y a les régulateurs qui sont là, naturels, le renard, les buses, les oiseaux, tout ça. C'est pour ça que en fait on fait partie d'un tout et qu'il faut être respectueux un peu de la nature.
Donc on a parlé des rats, mais aussi.
Alors les rats, je fais les fameuses punaises de lit, qui sont un fléau beaucoup moins chez les particuliers, mais plus chez l'hôtellerie, les choses comme ça.
Burke.
Oui, c'est malheureusement c'est les voyages en fait qui ramènent ces petites bébêtes là. Les gens les ont dans les valises sans le savoir et puis ils en déposent une par-ci, une par-là et puis nous on passe derrière et puis on les tue. Bon, ça fait du travail.
Exactement.
Voilà. Il y a ça, il y a les blattes. Les blattes, alors ça c'est commun, la germanique, les blattes américaines qui sont des grosses blattes qu'on retrouve maintenant dans les HLM, les conduits de poubelle, etc. Donc là où il y a de la nourriture, elles sont là. Et en plus, c'est très difficile de s'en débarrasser. Hein, je fais pas mal de traitements en ce moment sur des HLM privés, enfin des immeubles privés, pardon. Et je suis obligé d'intervenir à peu près entre 4 et 5 fois par an. Donc malgré les préventifs qu'on fait et les curatifs que nous faisons, en fait, 3 ou 4 fois par an, c'est un suivi. Il arrivera un moment donné, on les aura. Il y a les chenilles processionnaires, les fameuses chenilles processionnaires qui font
période aussi.
Voilà. Donc là, on va être dans la période du papillon. Donc là, elles se sont enterrées, elles ont descendu. On a mis nos éco-pièges, on en a capturé énormément. Bon, il y a toujours des arbres qui passent parce qu'on n'a pas posé les pièges, les éco-pièges. Donc du coup, elles se sont enterrées. Puis là, les papillons vont commencer à sortir. Juste après les seins de glace, ça commence, surtout avec le réchauffement climatique, c'est un petit peu plus tôt que d'habitude. D'habitude, c'est juin, juillet. Là, on commence déjà à voir. Donc là, on fait les pièges hormonaux pour semer la confusion aux mâles pour qu'ils ne trouvent pas les femelles et ça empêche les reproductions, ou alors le piège capture où on capture carrément le mâle et on le détruit, et puis on va y arriver de toute façon. On va limiter la chenille processionnaire au maximum. Alors très dangereuse pour les animaux domestiques et pour l'humain, parce qu'en fait ce sont des micropoils qui sont très urticants et très allergènes et peuvent provoquer des nécroses de la langue pour les animaux. Et souvent, c'est la mort qui suit derrière, puisque l'animal ne peut plus se nourrir. Et il n'y a pas vraiment de remède à ces infections dues à la chenille processionnaire.
D'accord. Tu fais aussi des fourmis ?
Les fourmis, alors pour l'instant, l'électrique. Hein, bon, j'en ai jamais vu. Mais la fourmi, ouais, c'est tout simple. Hein. La fourmi, il suffit de faire un piège. J'explique souvent aux gens ce qu'il faut faire plutôt que d'intervenir. C'est plus bio, plus écolo. Et puis, on n'est pas là non plus pour tout détruire, parce que les fourmis ont aussi leur utilité. Bon, c'est vrai que quand elles sont dans une maison, dans un placard, une fois qu'elles ont pris l'habitude, là, il n'y a pas de secret. Alors, quelques gouttes de produit, elles emmènent ça à la fourminière et puis on n'en parle plus. Hein, c'est doux, c'est écolo, et puis on en reste là, quoi. Mais les fourmis qui sont dans la nature, laissez-les.
On les laisse, ouais. Voilà. Moi, j'ai mes parents qui ont des fourmis qui attaquent un petit peu leur véranda. Elles sont toujours au même endroit, et puis en fait, elles passent par des joints, elles abîment les joints.
Alors, c'est parce qu'en fait, je pense qu'elles doivent être dans les montants, et elles rentrent, elles sortent, et elles se font en fait leurs entrées, leurs sorties. Enfin, là, je vois pas, j'ai pas le scénario, mais je pense que c'est ça. Bon, quelques gouttes de produits.
Et c'est terminé.
Hein. Même les produits du commerce, hein, pour les fourmis, il y en a des très très bons. Bon, moi je trouve que c'est un petit peu cher, parce que par rapport à ce que nous, les professionnels, nous payons. Mais bon an, mal an, si je me déplace avec le frais de déplacement, la main-d'œuvre, l'URSSAF. Donc voilà quoi, ça reviendra au même.
Est-ce que tu peux me parler comment se déroule une intervention sur un nid de frelons ?
Oh, alors. Il y a deux cas possibles. Hein. Le nid primaire, c'est assez simple. Hein. C'est des petits nids qui font de la taille jusqu'à, on va dire, un ballon de handball. Hein, c'est jamais beaucoup plus gros. Là, on arrive à intervenir assez facilement. L'intervention coûte pas cher parce que c'est relativement simple. On s'habille et on pulvérise du pyrètre ou du Remanex, pour pas citer les marques. Mais voilà. Mais bon, en 10 minutes, c'est terminé. Ou si jamais ils sont vraiment petits, on arrive à les capturer avec des bocaux. Puis moi, je les expose quand je fais mes interventions. Pour
oui,
expliquer.
Oui, on a vu.
Voilà. Je reviens avec des frelons un peu partout.
Pour les nids d'abeilles, par contre, comment ça se passe ?
Alors, c'est pas des nids d'abeilles. On parle d'essaims.
D'essaims.
Voilà. Donc, les essaims, les pompiers, souvent, nous appellent. Donc les essaims, normalement, le mieux, c'est de passer quand même... Si vous connaissez un apiculteur, il va se déplacer, il va le faire, c'est gratuit, puisqu'il va récupérer l'essaim. Par contre, il ne se déplacera pas, et c'est de plus en plus courant, et c'est ça que je regrette un peu, c'est que les apiculteurs ne se déplacent de moins en moins, parce que l'essaim se trouve soit trop haut, soit dans un toit, soit ceci, donc ils ne veulent pas non plus trop s'embêter. Et donc, nous, on est obligés d'intervenir. Alors, je fais tout pour sauver l'essaim. C'est-à-dire, si le particulier, si la victime, on va dire, m'autorise à faire du démontage de toiture, des choses comme ça, on va essayer de trouver des seins puis de le ramener. Et si malheureusement c'est pas possible, on est obligé, à la demande du client, de le détruire. Et là par contre c'est payant.
D'accord.
Voilà, jusque-là, moi, je ne faisais pas payer. Mais dès qu'on parle de destruction, ça, pour un apiculteur, c'est contre nature, donc je fais payer.
Pour les particuliers, que doivent-ils faire en cas de nid de frelons ou de présence de rats ?
Alors, deux choses différentes, là, complètement. Alors, pour les nids de frelons, si vous en voyez un, vous ne vous approchez pas à moins de 5 mètres. Si vous êtes dans le périmètre des 5 mètres, vous risquez de vous faire attaquer.
Eh oui, j'ai connu ça.
On parle de frelons
asiatiques.
Asiatiques.
Hein, frelons asiatiques. Merci d'avoir fait le distinguo, parce que le frelon européen, il n'est pas si agressif que ça. Tant qu'on ne touche pas au nid, le frelon européen ne vous attaquera pas. Hein. J'en ai fait moi-même l'expérience. Mon épouse aussi, on avait un nid qui était juste au-dessus d'une pièce de vie. Et on a vécu comme ça quelques mois sans qu'il y ait de problème, et ils sont partis d'eux-mêmes.
Et il n'y a que les frelons asiatiques qui agressent les abeilles, etc.
Voilà, donc en fait, ce qui se passe, je vais expliquer. Donc, pour terminer, donc, le nid secondaire, on n'avait pas fini tout à l'heure. Le nid secondaire, là, il faut sortir tout le matériel. On travaille soit avec des perches, soit avec un drone, soit avec des poudreuses. Et là, on sort les vêtements lourds parce qu'on est obligé de s'approcher du nid. Et le fait de planter une perche dans un nid, ça les excite et puis ils nous attaquent aussi sec. Quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième. Le nid frelon, pour en revenir à ce que vous disiez, puis la question demandée, donc on ne s'approche pas à moins de 5 mètres d'un nid frelon. Malheureusement, les jardiniers, tout ça, ils en font les frais parce qu'ils arrivent avec le broyeur, etc. Et puis boum, ils se font attaquer aussi sec. Donc dans ces cas-là, il faut se sauver, quoi. Hein, lorsqu'on se fait piquer, il faut quitter au plus vite l'endroit, s'éloigner le plus. Et normalement, le frelon ne poursuit pas, revient à son nid pour continuer à le défendre. Hein, d'accord. Si vous êtes piqué, que vous sentez que ça ne va pas, c'est que vous faites un choc anaphylactique. Donc là, tout de suite, on appelle le 15. Hein, on n'attend pas. Oui. Parce que...
C'est-à-dire le SAMU.
Le SAMU, ouais. On appelle le SAMU, ou si vous êtes avec quelqu'un, vous faites emmener tout de suite à l'hôpital. Si vous gonflez, c'est normal, hein, parce que le frelon asiatique injecte quand même beaucoup de produits, mais vous ne ferez peut-être pas forcément un choc anaphylactique. Donc, le choc anaphylactique, c'est ce qu'il y a le plus dangereux.
Donc, c'est le risque à éviter, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Il faut éviter le risque de se faire piquer, donc de vous approcher. Si vous avez un nid de frelon... Vous ne vous approchez pas, vous appelez un professionnel.
D'accord.
Il faut appeler un professionnel. On est équipé pour ça. On est agréé pour ça. On a des assurances pour ça. Donc, n'hésitez pas. Il faut nous appeler. Et puis, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre. Hein. Moi, je défends pas. Enfin, on est tous solidaires, je pense, pour le frelon. Il y a une campagne nationale qui est mise en place depuis le 1er mai. Avec un budget de 3 millions d'euros, je me semble. Donc je ne sais pas comment ça va
être réparti. Et pour revenir à ma question de tout à l'heure, est-ce que la région où l'on est, c'est-à-dire la Marne, la Franche-Armanternelle, est plus exposée que la moyenne, justement, sur ce type de danger ?
Non, les régions les plus exposées, mais vraiment très exposées, c'est tout le sud-ouest, d'où l'origine en fait, du frelon.
Oui.
Et là, il remonte. Mais par contre, on est envahi, là. Ça y est, nous, on est passé au rouge, là, dans la Marne, depuis 2 ans déjà. Et moi-même, qui suis apiculteur, j'en capture de plus en plus. Hein. Là, j'ai fait une trentaine de rennes, rien que sur mon domicile. Je parle même pas du rucher. Hein. Donc j'ai fait une trentaine de rennes, rien que sur mon domicile, et on en voit encore partout. J'en vois encore qui ne sont pas capturés. Donc, on fait des distributions de pièges avec les mairies, les campagnes, etc. Bon, Chalon, je ne sais pas comment ils font pour le moment, s'ils organisent ça ou s'ils veulent organiser ça. C'est des pièges qui durent 4-5 ans quand même. Donc, c'est pas mal d'investir une vingtaine d'euros dans ces pièges sélectifs. Hein, j'insiste bien sur le sélectif. C'est des petits pièges qui prennent pas beaucoup de place, mais qui sont très, très efficaces.
Voilà. À quoi ressemble le frelon asiatique ?
Alors, le frelon, le Velusta nigritorax, donc il est indigène de l'Asie continentale. Hein. Alors, c'est un frelon qui est noir, hein, on va dire dominance noire, des ailes marron, 2 taches orangées jaunes sur l'abdomen, Le dessus de son abdomen ressemble à celui du frelon européen, bariolé de jaune et de noir, malheureusement. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est les pattes jaunes.
D'accord.
Si le frelon a les bouts des pattes jaunes, hein, les deux tiers de ses pattes sont jaunes, vous êtes en présence d'un frelon asiatique. Alors s'il est tout seul, il va faire sa vie, il ne va pas vous attaquer. Il n'est pas à côté de son nid. Donc... si vous êtes, n'y touchez pas, ne l'excitez pas, il va pas venir vous piquer exprès. Par contre, si vous êtes près du nid qui vous pique, c'est que vous êtes et que vous n'avez pas vu le nid, c'est que vous êtes pas loin d'un nid. Alors écartez-vous, hein, si vous voyez qu'il vous cherche. Et puis ça tape, hein, ça tape fort. Hein.
Ben, on va dire que par rapport à une abeille qui perd son dard, le frelon ne perd pas son dard. Il peut piquer plusieurs fois,
20,
c'est ça ?
20 fois de suite, ouais.
20 fois de suite.
Jusqu'à 20 fois de suite, on a vu des frelons piquer en laboratoire, piquer 20 fois de suite. Et donc, ben, si vous en avez une centaine, ou 200, voire 300, peut-être un millier...
C'est la mort assurée.
Ben, vous n'êtes pas bien, quoi.
Mais est-ce qu'il y a des zones à éviter, justement ? Est-ce qu'il y a des zones plus accidentogènes que d'autres en matière ?
Il n'y a pas vraiment de règles, en fait. Il n'y a pas vraiment de règles. Hein. Les haies, ils s'installent dans les haies. J'en ai vu qu'ils s'installaient dans des tas de bois. La plupart du temps, lorsque c'est le nid secondaire, c'est toujours en aérien, c'est-à-dire à peu près à 15-20 mètres du sol. Ça fait comme des gros ballons qui font à peu près quand même 80 cm de diamètre de haut en bas. Et on va dire 50 à 60 cm en largeur. Ça peut contenir jusqu'à de 5 à 12 000 individus. Hein, moi j'en ai fait avec. J'ai fait des nids de frelons à 7 galettes. Donc la galette, c'est les rayons qui permettent à la reine de pondre et de se reproduire. Donc 7 galettes, c'est vachement. C'est impressionnant, c'est lourd. Hein. Et puis c'est dur à décrocher.
Mais ça,
frelons, ouais, c'est ça. Et puis, donc les zones accidentogènes, non, ils sont partout. Ils sont partout. Je peux pas vous dire plus que ça. Là, à côté, peut-être, ouais, c'est à moins de 500 mètres des ruchers, souvent, il y en a. Mais il y en a en ville. Moi, j'en ai fait une paire. Là,
j'en ai fait
en ville, à Reims, pas loin du parc Pommery. J'en ai fait...
Des endroits quand même verts, à prairie, quoi.
Oui, tout à fait. Mais bon, là, en ce moment, les nids primaires, vous les avez dans vos granges, vous les avez sous un appentis, vous les avez dans des maisons, sous une toiture, les bordures de toiture, voilà, quoi. Donc... Faut être alerte. Ils sont assez invasifs. À ne pas confondre non plus avec le nid du frelon européen qui, lui, reste ouvert. Alors que le nid du frelon asiatique, il est fermé avec un trou en bas. Donc ça peut donner
une petite indication.
Si vous n'êtes pas sûr, vous appelez un professionnel. N'appelez pas les pompiers. Si vous êtes chez vous, ils ne viendront pas.
En parlant de professionnel, ouais. Tu as monté ta petite boîte, hein, Fildar & Co. Tu peux nous en dire plus ?
Alors c'est une structure portée que j'ai fait avec la société Fricadre, qui est une société de portage avec qui je travaille depuis longtemps, puisqu'avant j'étais agent immobilier, et puis c'est eux qui me portent depuis 5-6 ans. Et l'avantage, c'est qu'on garde le statut de salarié, tout en étant son propre patron. Il s'occupe de faire votre gestion.
La paperasse.
Dans le pourcentage qu'ils prennent, bah, vous avez la responsabilité civile. Vous ne payez pas votre expert comptable. Vous ne payez pas tout un tas de choses. Donc, en fait, c'est plus avantageux quand on est en fin de carrière comme moi de faire ça que de finir auto-entrepreneur ou d'essayer de faire une SARL qui, de toute façon, vous coûtera plus que le portage. Donc on paye notre URSSAF, on paye nos charges sociales en tant que salarié, on donne une petite commission pour la gestion de tout ça à la société de portage, et puis ça se passe très bien. Voilà. Et puis si jamais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de fiche de paye, donc on touche au chômage.
Voilà.
Voilà, puisqu'on cotise.
Et tu parcours combien de kilomètres autour de Châlons-en-Champagne, autour de chez toi ?
Alors moi j'interviens sur un rayon de 50 kilomètres. 50 km, donc ça couvre... j'avais fait un truc sur Google, mais je crois qu'il s'est planté, parce que je n'irai pas à Verdun. Donc j'avais fait rayon de 50 km, donc ça englobe en fait Reims, Châlons, Mourmelon...
Épernay,
mais Épernay, il y a déjà beaucoup de monde qui font ma profession, donc on ne va pas se battre. On se connaît en plus, donc on a fait des stages biocides ensemble, phytosanitaires ensemble. Donc on est intelligent, on reste dans la zone, quoi, dans la zone.
Où est-ce qu'on peut te joindre ?
Alors, vous pouvez me joindre sur Facebook.
Phil, espace d'art, D-A-R-D.
Ouais, non, c'est Phil d'art, d'art 3D, vous mettez.
3D.
Voilà, Phil d'art 3D ou Phil d'art & Co. Phil d'art 3D, ça doit être la page groupe. Ah, je ne suis pas très fort là-dessus. Donc, voilà, vous regarderez, c'est marqué Alto Frelon et Nuisible.
Un
ça,
numéro
c'est
de
ma
téléphone
page. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 76 82 93 93. Voilà.
Merci beaucoup. T'as autre chose à rajouter ?
Non, soyez prudents. Et puis, n'hésitez pas. Il vaut mieux appeler un professionnel que prendre des risques et essayer de faire ça soi-même, puis finir à l'hôpital.
Merci beaucoup, Philippe.
Juste un truc, je vous répète. Il y a plus de morts avec les frelons asiatiques que d'accidents de chasse en France.
Ah ouais, quand même.
C'est à noter.
Voilà, donc,
merci encore.
Merci, Philippe.
Merci à vous de m'avoir invité. Et puis, longue vie à Radio Mono.
Merci.